carnet de campagne, bonjour. Pour cette dernière, pardon, dans l'autre, ça commence bien avec un petit chat. Un courrier nous invite à parler de Cucugnan, non pas de son curé, en tout cas du curé de Daudet, mais de la propension de ce village à s'engager dans l'économie sociale. Fait peu banal pour une commune de 134 habitants. Par exemple, des poulaillers collectifs, des jardins partagés, des spots de sieste au pied du château de Kéribus, encore un vestige historique du pays Qatar. Et puis, une production de blés anciens, bio, par exemple. Mais notre préférence aujourd'hui ira vers ces villages du Limouxin, du pays de Mirepoix et du Lauragais, c'est-à-dire entre Aude et Ariège, qui organisent du 1er juin au 30 septembre des chemins de photos, soit depuis 5 ans près de 70 expositions dans les villages agrémentées de balades à la découverte des patrimoines locaux. Les photographes exposés viennent du monde entier, ils participent en point d'orgue de ce festival de la photo en milieu rural aux soirées images d'été qui se tiennent entre le 14 juillet et le 15 août au salon photo du Razès. Des journées professionnelles sont également prévu au mois de septembre dans le cadre de ces chemins photo, chemin au pluriel de photo.com. Et pour clore donc cette semaine audoise, nous invitons Marie-Laure Cabanel, présidente de l'association Patrimoine Terre de Passage, des richesses naturelles, historiques aux richesses immatérielles. L'association cherche à participer au bien vivre. L'article de Laurent Gibowski dans les pages numériques de la vie vous en dira davantage. Et puis ensuite, suite à une journée de mouvements sociaux, nous n'avions pas pu entendre en Charente Jean-Claude Carrère. Donc on va vous proposer aujourd'hui une séquence retour sur la Charente avec Jean-Claude, animateur de l'association Charente Nature, pour un programme de prévention des déchets très performant.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marie-Laure Cabanel, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Marie-Laure, vous êtes présidente fondatrice de l'association patrimonial d'intérêt général, terre de passage dans le Limouxin, au cœur de l'Aude. Terre de passage parce que nous sommes sur une région qui était carrefour, zone de passage.
Oui, c'est une zone de grande mixité, à la fois historique et puis des mélanges de populations qui ont balayé l'histoire, donc qu'on retrouve actuellement dans le terroir Limouxin. Et ça nous a paru un nom bien évocateur de tous ces changements historiques et de la volonté de transmission qu'on a aussi au sein de l'association.
Et vous vous investissez sur quel type de patrimoine ?
Alors, on a un intérêt à la fois pour les patrimoines culturels matériels, donc tout ce qui est châteaux, églises, abbayes, les voies de circulation anciennes, les aménagements bâtis en pierre sèche, etc. Tout ce qui est patrimoine culturel immatériel, donc tout ce qui concerne la mémoire, les légendes, les savoir-faire artisanaux, les figures historiques aussi qu'on retrouve sur le territoire. Et puis, en dernier type de patrimoine, il y a tout ce qui est le patrimoine naturel. On a des plantes patrimoniales importantes, des orchidées par exemple, et une ornithologie aussi qui est assez riche. Donc tous ces patrimoines en fait forment un tout cohérent et qui font l'objet de l'association.
Ça implique des interventions de terrain, ça implique des savoir-faire. Je pense d'abord au patrimoine matériel bâti. Quand vous avez à restaurer des monuments, il faut avoir les compétences pour ça.
Tout à fait. Alors ça rentre dans à la fois les compétences de l'association et puis la démarche qu'on a qui est partenariale, puisqu'on réunit pas mal de compétences, que ce soit dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, des savoirs locaux, de la construction même, avec cette volonté de faire ensemble et d'associer en fait dans un maillage qu'on construit petit à petit sur le territoire, à la fois des acteurs professionnels, donc des architectes du patrimoine par exemple dans le cadre restauration, des archéologues professionnels pour des fouilles, et puis des acteurs associatifs aussi pour un certain nombre d'actions sur le territoire.
Ouais. Vous êtes dans une région de l'Occitanie dont on connaît la densité d'éléments du patrimoine historique, et entre autres des sites UNESCO, parce que je crois que dans la région, il y en a 15 ou 16.
Une vingtaine, à peu près,
ouais.
Oui.
Ça veut dire que c'est une énorme densité, et aujourd'hui, il faut attendre 2016 pour qu'une association comme la vôtre voie le jour et s'investisse sur un patrimoine qui semblait un atout. Alors, on ne savait pas le voir, on ne savait pas le prendre en charge.
Alors effectivement, c'est parti d'un désir vraiment de reprise citoyenne, en quelque sorte, de ces biens communs qui sont très nombreux, qui sont souvent méconnus en dehors des gros sites qui sont classés au patrimoine mondial ou qui font partie des sites pays Qatar. Mais à côté de ça, il y a tout un patrimoine qui est en partie oublié ou sous-évalué, des richesses qui dorment. Et on se rend compte que l'association, de ce point de vue-là, vient vraiment au bon moment, puisque là, on a vraiment une multiplication des contacts à tous les échelons et des communes qui nous sollicitent de plus en plus.
Ouais. Alors, vous êtes combien de membres pour répondre à toutes ces demandes et ces besoins ?
Pour l'instant, on a 80 membres à peu près, mais avec vraiment voilà, des gens de plein de communes du Limouxin et une grande variété de centres d'intérêt. Par les patrimoines, on arrive à toucher des gens avec des profils extrêmement différents et complémentaires. C'est ce qui fait notre richesse.
Les collectivités vous aident dans cette démarche ?
Alors oui, tout à fait. On a le soutien d'un certain nombre de communes qui sont les communes, disons, d'origine, on va dire, de l'association. Comme on est sollicité par d'autres communes, on reçoit également leur soutien. La Fondation du patrimoine qui nous aide également, la DRAC qui nous suit. Et ça va vraiment avec notre envie de faire ensemble et d'avoir vraiment ce maillage, disons, vertueux au sein de l'association.
Formidable. Et le but, c'est quand même, je tiens à le souligner, c'est pas uniquement, bien sûr, de favoriser l'attractivité d'un territoire, mais c'est de l'ouvrir à ses propres habitants, parce que très souvent,
oui,
on passe à côté.
Oui, tout à fait. Nous, on a vraiment une envie déjà de développer un art de vivre partagé, disons, pour les habitants et pour nos enfants, d'avoir un lieu qui leur permette aussi de rester sur ce territoire, en cultivant vraiment toutes nos identités, mais également de partager tout ça dans le cadre d'un développement économique qui soit à la fois soutenable, qualitatif, et puis éventuellement un développement touristique raisonné, mais qui doit vraiment être en lien avec l'enracinement des projets. Voilà, nous, on cherche à construire vraiment des circuits vertueux, disons, qui se renforcent mutuellement à travers nos différentes actions.
Chers amis, vous allez trouver à nos pages d'émission le lien avec la page Facebook de l'association Terre de Passage, présidée par Marie-Laure. Merci Marie-Laure, bonne journée.
Merci beaucoup Philippe Bertrand, à bientôt.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Je m'étais promis, il y a quelques jours, de vous donner quelques explications sur l'histoire étrange de l'abbé Béranger Saunière. François Béranger Saunière, né en 1852, décédé en 1917 dans le village de Rennes-le-Château, gagnant réputation tout aussi bonne que mauvaise durant son ministère dans ce village qui comptait à son arrivée quelques 300 habitants. Le curé a entrepris en effet d'importants travaux de construction et de restauration, à commencer par ceux de l'église qui renfermait, dit-on, un trésor. Le choix d'ailleurs des ornementations de l'église seraient autant de signes des autres caches à trésors réparties dans l'environnement du village. Soupçonné de vol, de trafic, l'abbé Saunière poursuivit malgré tout son programme de construction qui pouvait trahir une certaine folie des grandeurs, comme la construction d'un immense belvédère et d'une tour un tantinet mégalomaniaque en prolongement de ce point de vue sur les plaines en contrebas de la colline sur laquelle le village est perché. La littérature s'est emparée de l'histoire au point d'alimenter un imaginaire collectif qui dépasse largement les frontières régionales et même nationales. Avec aujourd'hui ses 70 habitants, le village demeure un objet de curiosité. La fabuleuse histoire de Béranger Saunière est le titre que la compagnie du théâtre dans les vignes donne à sa prochaine création. Ce spectacle sera présenté du 22 août au 1er septembre dans le théâtre de la compagnie à Coufoulens. Le site, c'est letheatredanslesvignes.fr. Et retour donc comme prévu en Charente avec Jean-Claude Carrère. Bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Jean-Claude, vous êtes animateur d'un groupe prévention déchets économie circulaire de l'association Charente Nature. Vous êtes d'ailleurs administrateur de cette association qui existe depuis 17 ans, c'est ça ?
Alors, l'association existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est le groupe prévention déchets qui existe depuis 17 ans. Mmh. Voilà.
Et donc ce groupe prévention déchets économie circulaire né en 2001 que vous animez correspondait à un enjeu environnemental dont on avait pris conscience à ce moment-là.
Oui, c'était au moment où en France se développait beaucoup de luttes contre les incinérateurs. Et nous, il y avait un projet d'incinérateur qui était plutôt très polluant. Et à ce moment-là, il y a eu toute une cristallisation d'opposition. Mais à Charente Nature, quand on est dans l'opposition, on est aussi dans la proposition. Oui. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de créer ce groupe.
Oui. Et comme vous étiez donc dans cette période pionnière, dans la prise de conscience de l'impact des déchets, du gaspillage sur l'environnement et sur notre vie, vous avez créé vos propres outils d'animation et vos méthodes aussi.
Oui, parce puisque on s'aperçoit que en matière d'animation, ce sont pas les discours qui sont les plus efficaces, mais plutôt que les gens retrouvent concrètement dans nos outils ce qu'ils voient dans la vie quotidienne. Par exemple, on a fait une grande poubelle pédagogique. Sur cette grande poubelle, il y a 6 faces. Les gens vont retrouver sur une face noire les objets qu'ils mettent dans la poubelle noire, sur la face jaune, ce qu'ils vont mettre dans la poubelle jaune, et sur une face verte, tout ce qui est jeté et qu'il ne faudrait pas jeter. Voilà. Et donc, on fonctionne autour de notre maxime qui est le meilleur déchet et celui qui est évité,
oui.
Avec un objectif quand même fondamental, c'est aussi de préserver les ressources de la planète.
Alors très souvent, Jean-Claude, les personnes sensibles à cette cause sont des personnes qui sont déjà alertées, informées, qui sont dans des conditions sociales, culturelles, économiques qui favorisent peut-être cette alerte-là. Il y a d'autres publics qu'on oublie.
Oui, alors ça a été une grande réflexion et évolution à Charente Nature, parce qu'on s'est interrogé sur qui on était, et on s'est aperçu qu'effectivement on était plutôt une association classe moyenne, de gens qui habitaient dans des maisons, le plus souvent à la campagne. Et après avoir fait des animations un peu tous azimuts, tout public, on a choisi d'aller vers des publics plus ciblés, dans des quartiers dits sensibles, et pour faire un travail en profondeur et dans la durée. Et donc on est arrivé à des collaborations extrêmement intéressantes avec un groupe famille dans un centre social, avec un autre groupe dans un autre centre social. Et depuis au moins 10 ans maintenant, on a des actions suivies sur des ateliers très pratiques qui fonctionnent très très bien, sur comment ne pas utiliser des produits dangereux dans le ménage, comment faire ses cosmétiques. Voilà.
Et alors aujourd'hui, on a franchi une première étape qui était la prévention. Vous allez vers un degré supérieur que vous appelez l'ultra-prévention.
Oui, alors on a participé l'année dernière à un grand débat public qui a duré un an, qui était provoqué par le fait qu'on est un des seuls départements en Nouvelle-Aquitaine à fermer un incinérateur, on n'en fera pas d'autre. Et donc de tout miser sur la prévention, c'est ce qu'on appelle l'ultra-prévention. On n'a pas la prétention de faire tomber la production des déchets à zéro, mais vraiment d'avoir un impact énorme, déjà entre 2004 et 2014, sur une production de déchets ménagers de 268 kilos, je parle simplement ceux qui vont dans le sac noir, ce qu'on appelle le sac noir ici, on a fait chuter de presque 60 kilos, mais on pense qu'il y a encore beaucoup de possibilités, en particulier les gens continuent à mettre dans leur sac des déchets organiques qui peuvent fort bien être compostés ou méthanisés, etc., qui représentent des tonnages importants.
En tout cas, bravo pour l'exemple que vous donnez avec donc la fermeture de ce dernier incinérateur, et vous avez bien vu et bien dit, au lieu d'enfuir ou d'incinérer, on peut recycler, on peut réemployer, on peut composter, et figurez-vous que ça crée du travail, ça crée des emplois, et vous prévoyez donc une fête de la récup au mois de novembre.
Voilà, alors ça, la fête de la récup, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On est très fiers de cette fête de la récup. Il y a des cafés de la réparation, il y a des réparations de vélos par une association qui s'appelle Cycloficine. Les petits débrouillards vont faire des animations sur comment utiliser réutiliser des ordinateurs. On l'a appelé fête de la récup, c'est plutôt fête de la prévention des déchets. Et aujourd'hui, les gens sont extrêmement sensibles, et la 5e édition se prépare, et on est sûr qu'une nouvelle fois, ça va être encore un succès.
Le site, c'est charente-nature.org pour toutes les informations.
Voilà.
Merci Jean-Claude.
Merci Philippe, et à bientôt.
À bientôt. La semaine prochaine, nous serons dans le département de l'Indre. D'ici là, merci à Nuro qui réalisait les émissions cette semaine, assisté de Joël Levert et de Camille Matti. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui ont bien laboré cette semaine, comme Fabrice Desmas aujourd'hui.